Alors, je vous remercie de venir à cette soirée et d'animer cette discussion. Monsieur Rottenbühler, le micro est à vous. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Bonsoir. Est-ce que le micro marche ? Oui, OK, très bien. Alors, on va parler de pub. On nous a toujours avertis, on a toujours dit attention, la pub, c'est pas bien. Et puis, les instituteurs à l'école, ils mettent en garde de la pub, etc. Moi, je suis convaincu que les consommateurs ne sont pas idiots. Mais parlons de nouvelles formes de pub. Et pour cela, nous avons invité trois expertes qui vont se présenter elles-mêmes. Je commence par vous.
Merci. Je m'appelle Aileen Schuch, je suis la fondatrice de la plateforme du marketing bouche à oreille, la première en Suisse dédiée à ce forme de marketing, Cool Brands. C'est une plateforme en fait qui a pour but de connecter les gens avec les marques et qui est active sur tout le territoire suisse, donc en plusieurs langues et maintenant également à l'étranger.
C'est pas vous qui téléphonez à 19h du soir chez les gens ?
Non, c'est pas nous.
Ah bon, ok, alors je suis rassuré, très bien. Mais j'aimerais quand même en savoir davantage après sur comment vous fonctionnez. Vous avez compris ce qu'elle fait ? Pas très bien, moi non plus. Voilà. Alors vous, s'il vous plaît.
Alors moi, c'est un peu plus simple. On m'entend ? Oui.
Oui.
Je suis professeure assistante en publicité à l'université de Neuchâtel ici et j'enseigne notamment la communication marketing intégrée. Donc avec une grande part en fait justement des médias sociaux dans la communication marketing des entreprises et justement l'évolution de cette part-là dont on va parler un petit peu pendant la présentation. Et j'ai beaucoup travaillé dans le marketing critique, donc en termes de recherche, où justement j'étudiais un petit peu les comportements publicitaires critiquables de certaines entreprises, comme dans le monde de la loterie, par exemple, dans le monde du tabac, de l'alcool, etc.
Donc, voilà, j'ai bien pensé, si vous êtes professeur, vous avez un œil critique sur ces questions.
J'espère en tout cas l'avoir, oui. Je développe jour après jour, hein, mais oui, je pense avoir un œil critique quand même.
Et au bout de table, on a quelqu'un qui est actif dans la publicité, ou qui a été actif dans la publicité.
Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Renée Béni et je travaille actuellement chez Présence Suisse à la Confédération. Je suis en charge du digital et des médias sociaux là-bas. Et auparavant, j'ai passé quelques temps chez 20 minutes où j'étais en charge des médias sociaux. Et puis encore avant, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une agence bernoise qui est spécialisée dans le marketing viral et les médias sociaux.
Alors, c'est vous qui rédigez les tweets de Monsieur Bidot ?
Non, il le fait lui-même.
Effectivement.
Ouais,
il en fait.
Oui, beaucoup.
Et il est repris.
Il est très actif sur Twitter. Il a une communauté qui est essentiellement composée de personnalités romandes, de journalistes. Mais il fait très bien son rôle d'ambassadeur sur Twitter également.
Donc, et puis il tweet tous les jours. Vous lui
quasiment
recommandez de tweeter tous les jours ?
Alors, on lui recommande pas. C'est lui-même qui a décidé de se créer son compte sur Twitter. On ne lui recommande pas. La Confédération, pour l'instant, n'encourage pas les individus à se créer des comptes sur Twitter. Donc, il le fait à titre personnel. Mais sans lien direct avec nos activités. On a nos identités propres qu'on gère nous-mêmes sur les médias sociaux, sur Twitter, Facebook, etc.
Et il n'a jamais fait un tweet qui lui a posé des problèmes, comme d'autres fonctionnaires
Alors, à ma connaissance, pas, mais ça lui est arrivé, comme tout humain, de faire quelques erreurs, je dirais, de fonctionnalités sur Twitter. De ne pas mettre le hâte au bon endroit, de ne pas mettre le bon hashtag. Voilà, comme toute personne qui se lance sur les médias sociaux, on fait tous des erreurs parfois.
Alors, si vous ne vous occupez pas de ces tweets, vous faites quoi à la Confédération ?
Moi, je m'occupe donc, de tout ce qui est digital. Donc, ça va être présence sur Internet, donc mise en place de sites Internet, par exemple. Et puis, je gère également les médias sociaux. Donc, on a un compte sur Twitter qui s'appelle House of Switzerland, que je vous invite à suivre. On a également une page sur Facebook et puis on a également d'autres comptes sur Twitter. On travaille notamment avec les ambassades qui, elles aussi, ont des présences sur les médias sociaux. Donc, on fait des liens avec tout ça dans le but toujours de promouvoir la Suisse à l'étranger.
Donc, sur votre site, je peux suivre ce que vous êtes en train de faire à Milan maintenant ?
Tout à fait.
Oui, OK. Voilà. Alors, je vous recommande. Donnez l'adresse du site.
Alors, bon, y a différentes plateformes, mais si vous cherchez House of Switzerland, vous allez dans...
House of Switzerland.
Voilà.
Voilà. Alors, revenons à vous. Alors, expliquez-moi ce que c'est ce que vous faites exactement, avec un cas concret. Comment vous mettez les gens en lien? Est-ce que vous allez sur les marchés, vous distribuez des échantillons de vos maltines ou des...
Bon, ça sera la promotion de terrain, hein, la promotion de vente plutôt. Nous, on travaille un tout petit peu différent. C'est de comprendre une marque déjà, son essence, ses valeurs, les émotions qu'elle dégage, et puis de lui permettre en fait de rencontrer ses cibles dans un contexte opportun, donc pas peut-être forcément dans la rue, mais peut-être dans un contexte plus intime, et qui laisse en fait le consommateur découvrir un produit ou carrément co-développer, co-créer un produit, ainsi que la façon de le faire connaître en coupant carrément en fait quelque part l'intermédiaire qui est la publicité.
Alors dites-moi concrètement, ça c'est, je comprends toujours pas. Donc vous m'avez parlé d'une boisson, vous avez fait de la pub pour une boisson. Donc, le client qui produit la boisson vient chez vous et il vous donne des caisses de cette boisson et vous allez les mettre dans des ménages. Bon, bien, comment vous choisissez les gens à qui vous avez donné des échantillons ?
Premièrement, par affinité. Donc, c'est ça, en fait, le but d'avoir une communauté ou créer, animer, générer, manager une communauté, en fait, qui devient son audience propre, qui est réceptif au message qu'on souhaite diffuser et qui est aussi également prête à recevoir dans un contexte qui lui plaît. Donc, ce n'est pas de pousser quelque chose vers quelqu'un, c'est plutôt inviter, donc pull quelqu'un vers quelque chose dont on pense qu'il pourrait aimer. Après, pour des marques, donc concrètement, c'était un produit qui s'appelle Summerspeed, donc c'est une boisson qui existait déjà à l'international.
Summerspeed.
Oui, c'est un cidre. Hein. C'est une boisson de la maison Carlsberg en fait qui existait déjà.
C'est une bière donc.
C'est une cidre.
Ah, mais sans alcool.
Alcoolisé.
Pourquoi j'ai pas reçu un échantillon?
Parce que peut-être vous n'êtes pas encore cool brander, donc. Faudra
comment
travailler
deviens,
la coolitude.
Comment je deviens cool brander?
On s'enregistre.
Chez vous.
Exact.
Donc, sur le site de Cool Brand.
Exactement.
Alors, si vous voulez un cidre alcoolisé, gratuit, inscrivez-vous chez Cool Brand. Non, mais on est en pleine pub, là. Hein?
Et je vous en remercie.
On a le droit maintenant de parler de marque. Ouais. Et ça a marché. Donc, maintenant, et tout le monde boit du Cool Brand, du Summerspeed.
En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était une marque qui existait déjà à l'étranger, hein, et qui était censée être lancée en Suisse. Maintenant, la maison en fait, à laquelle elle appartient n'avait pas d'expérience en Suisse, ne connaissait pas les consommateurs, ne savait pas non plus ce qu'aiment les gens, ne savait pas non plus quelle stratégie pour faire connaître la boisson ou le lancer en fait, à mettre en route. Et donc, il paraissait logique en fait, d'impliquer le consommateur, celui auquel est destiné le produit, dans la démarche de lancer. Donc, ce n'est pas de faire tester, on ne cherche pas des testeurs qui veulent avoir des trucs gratuits, ça, on peut le faire dans la gare. Nous, on souhaite des gens qui s'impliquent avec des marques, c'est un marketing participatif, marketing d'engagement, ça s'appelle, et ce sont des gens qui, en fait, travaillent, donc co-créent avec la marque et les produits et sa façon de communiquer, donc impacter effectivement sur les messages. Notamment, par exemple, ici, dans la phase de co-creation avec cette marque, il était établi qu'il y a évidemment des régionalités entre les préférences des gens. Ce qu'on associe avec un apéro, c'est très différent en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, aussi le contexte dans lequel on aimerait déguster une boisson comme ça. Tout ça est révélé par le consommateur, et concrètement pour la marque, l'effet qu'une démarche comme telle peut avoir, c'est une économie d'argent et de temps, parce que certaines mesures marketing auxquelles on a cru ne se sont pas mises en route puisque le consommateur ne le voulait pas.
Donc, vous connaissez cette démarche et comment vous la jugez? Elle est éthiquement parfaite, il n'y a pas de problème.
Alors,
pas
moi, je connaissais avant parce que je suis une cool brander, donc j'ai déjà testé des produits et puis je trouve en effet que c'est un très, très bon moyen de lancer un nouveau produit sur le marché qui a besoin de se faire connaître par le bouche à oreille. Donc, j'encourage, moi, ce genre de...
C'est un peu la technique Tupperware aussi.
Oui, c'est un peu...
Ça, c'était aussi...
Ouais.
On appelle aussi ça du cool branding.
Alors, on n'appelle pas ça du coup le branding, non. Mais c'est le même principe finalement, c'est qu'on se base sur la recommandation, qui finalement, aujourd'hui, on sait que les gens, ils sont de plus en plus méfiants à l'égard de la publicité, ils font beaucoup plus confiance à la vie des autres, donc finalement, on est plutôt dans une relation où on va faire confiance à ce que nous dit notre entourage, donc on est plutôt favorable et mieux réceptif, je pense, à ce genre de message qu'à une publicité qu'on peut voir à la télé. D'autant plus qu'aujourd'hui, les gens ont tendance aussi à se détourner de la publicité classique. Enfin, je pense qu'on fait tous dans la salle, quand il y a la publicité à la télé, on baisse le son, on en profite pour aller chercher quelque
mais
chose au
frigo. Mais vous êtes sûr, c'est pas un peu un mythe, parce que c'est ce qu'on dit toujours, et puis c'est ce qu'on dit dans les agences.
Il y a vraiment des statistiques là-dessus, et c'est prouvé que les gens aujourd'hui acceptent moins la publicité, tout simplement. Classique.
Accepte un peu moins, mais les investissements, les gros investissements vont quand même dans les télévisions. Quand on voit les statistiques, 80% de... Non, il y en a dans les prints, dans les magazines, mais il y a une grande part qui va dans la télévision, dans tous les pays.
Parce que ça, on répond toujours à certains objectifs par les médias de masse, pour ce qui est de la notoriété. Il n'y a rien de tel qu'une campagne d'affichage dans tout le pays pour faire connaître un produit, parce que c'est plus rapide, parce que ça se mesure aussi peut-être plus facilement, donc ça plaît finalement aux annonceurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les annonceurs ont aussi pas tous compris ces réalités du marché. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'on a du mal encore aujourd'hui à se lancer vers ce nouveau type de communication, je pense.
Est-ce que par rapport à la TV, justement, on est aussi confronté au fait que les médias sont fragmentés ? Je veux dire, plus personne ne reste devant la télé pour regarder. Les gens sont avec leur iPhone, leur iPad, ils écoutent, ils sont sur les médias sociaux, etc. Donc le média lui-même est fragmenté et donc le message, en fait, quelque part, doit s'adapter à ces nouveaux formats et doit être retrouvé là où est la personne qu'on cible et non plus le faire venir devant une télé ou quoi, mais d'être là où elle est en mode nomade, là où elle est réceptive à bien vouloir regarder ou entendre de X, Y, compagne, par exemple.
Oui, mais la règle très simple de la publicité, c'est vous devez faire la pub pour un produit et votre intérêt, c'est de toucher un maximum de gens au même moment. Et là, vous devez quand même aller, par exemple, avant un match de Champions League à la télé. Mm-hmm. Là, c'est incroyable le nombre de spots qu'il y a et puis le nombre de gens qui regardent. Hein. Quand vous avez Barcelone-Bayern, c'est quand même là, si vous avez assez d'argent, que vous voulez être, non ? Vous n'allez pas faire distribuer des sugus dans le stade. Donc, cette pub-là, elle est encore toujours absolument à 100% justifiée.
Oui, moi, je pense que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces techniques de cool branding ou de Tupperware, on va les appeler, c'est des techniques qui viennent en complément, en fin de compte. Mais c'est vrai que les médias de masse restent encore la voie la plus simple pour créer un réel positionnement et une réelle image de marque. Parce que justement, il faut qu'on vend quelque chose aux consommateurs. Donc, il faut d'abord développer l'image. Il faut faire diffuser cette image-là au plus grand nombre. Donc là, c'est les médias de masse. C'est pas par le biais des consommateurs, qu'on va réellement réussir à construire son image. On va réussir à la répandre, l'image, mais on ne va pas réussir à la construire.
Là, j'aimerais juste intervenir, si c'est possible.
Allez-y.
Par exemple, on a une publicité qui nous dit que XY confiture ou je ne sais quoi est formidable, magnifique, c'est juste super. Là, on construit une image de marque qui, en fait, peut tomber le moment où, effectivement, ça touche nos papilles, d'accord ? Donc, je ne pense pas qu'on puisse construire une image de marque véritable en dehors du média qui est aujourd'hui le consommateur. Donc, plus que le consommateur est impliqué dans ce genre de choses et construit et porte le message et crée l'image de la marque, vérifie avec sa voix authentique en contribuant, ça ne peut en fait, en tout cas pas remplacer une publicité qu'on a vue sur la télé, parce que plus que la démarche est sensorielle, comme par exemple le foot, aucune publicité, à mon avis, ne remplacera jamais d'y être et vivre l'événement et d'en parler par la suite. Parce qu'une et deux dimensions, on écoute, on voit, mais on n'a pas touché, on n'a pas été, on n'a pas senti, on n'a pas participé. Et donc, ça reste en fait un message qu'on reçoit, mais on n'y croit pas peut-être.
Mais moi, je préfère regarder les matchs à la télé et puis boire ma bière sans faire la queue pendant 20 minutes.
Moi aussi, je vous le dis.
Et puis, j'ai été dans des grands matchs où j'étais à 200 mètres du but, j'ai rien vu. Bon, mais maintenant, parlons d'un phénomène nouveau. On nous parle depuis quelques temps de du native advertising. Hein? C'est parce qu'on a vu que surtout dans le digital, toute cette publicité qui s'incruste, qui est en dessus ou à côté des contenus, n'est plus lue, n'est plus cliquée. Les gens cliquent plus sur les banners, les fameux banners. Hein. Et maintenant, on a trouvé des techniques pour rentrer directement dans le sommaire des news. C'est-à-dire, c'est des articles. Si possible bien écrit par même des journalistes sur un produit, par exemple la nouvelle Volvo décrite par un journaliste, et vous payez pour être dans le sommaire de, par exemple, d'un journal ou d'un site. Et cette publicité, on a cherché tout à l'heure sur Watson, on a cherché sur Tagesanzeiger, sur Le Parisien, on n'en a pas trouvé beaucoup. On a trouvé un seul. Mais c'est une technique qui est en train de s'installer et de s'établir.
C'est une technique qui est en train de s'installer doucement en Suisse, qui est déjà bien implantée outre-Atlantique. Alors, je voudrais juste revenir sur un petit point. Vous avez dit, c'est un journaliste qui va écrire un article sur la nouvelle Volvo. Ça, c'est un public reportage et ce n'est pas la même chose. Ouais. Le native advertising, il se rapproche du contenu éditorial dans la forme, c'est-à-dire que visuellement, on a les mêmes codes, mais aussi dans le fond. C'est-à-dire que le lecteur, lorsqu'il va lire ce contenu, il ne doit pas se sentir matraqué par un message publicitaire. Il doit avoir autant d'intérêt à lire cet article qu'à lire un article qui a été écrit par la rédaction.
Donc, mais ça il va est être... labellisé « advertisement ».
Alors après, pour l'instant, c'est encore très flou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un code déontologique qui dirait le native advertising, on le présente de cette façon ou pas. Donc ça reste très flou. Aujourd'hui, je dirais que les médias se régulent eux-mêmes. Et oui, on va pas voir public reportage, on va voir sponsorisé par Volvo. Voilà. Mais l'article, ça va être, par exemple...
Sur la sécurité.
Voilà, exactement.
Ouais. Un article écrit par un journaliste qui a parlé avec l'Office fédéral.
Et alors, puis... ça dépend, ce n'est pas toujours écrit par des journalistes. Là encore, ouais. C'est chaque média a ses pratiques. Mmh. Ça peut être l'équipe commerciale qui rédige l'article. Ça peut être l'annonceur lui-même qui rédige l'article, qui est soumis à approbation ensuite par l'équipe du média. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, pour le lecteur, finalement, on est face à un contenu qui nous intéresse. On n'est pas face à une bannière qui clignote et qui nous agace. On a envie de lire ce contenu. Et en termes de... Lorsqu'on analyse les chiffres, ce genre de contenu, les gens interagissent autant qu'avec du contenu créé par le média. Ils les partagent autant, ils cliquent autant dessus que les contenus du média. Donc il y a vraiment, au niveau résultat, c'est des très bons chiffres. Et c'est ça qui est intéressant, autant pour l'annonceur, qui finalement a des résultats, que pour le média qui propose une expérience qui est intéressante et qui ne fait pas fuir son lectorat avec la publicité intrusive.
Oui, il y a même des magazines qui ne vivent que de ça. J'ai vu en France, la semaine passée, mon beau-frère, il m'a montré un magazine magnifique avec sur la couverture une fille presque nue. Donc ça, c'est très bien placé, c'est un appât. Hein. Mais après, dans le magazine, il n'y avait que des reportages assez bien foutu et mis en page sur des sujets intéressants, des nouveaux produits, des nouvelles destinations, de la gastronomie, etc. Et puis on se rendait compte que tout était payé finalement. Vous avez raison, ça intéresse autant si c'est bien fait, ça intéresse. C'est comme un prospectus de voyage. Hein. On dit toujours que les gens ne lisent pas les prospectus gratuits dans les journaux, c'est pas vrai, les gens les lisent. Donc, il y a beaucoup de préjugés aussi sur la publicité. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas de déontologie. Elle va s'établir quand même. Vous qui avez l'œil critique, la professeure, vous pensez qu'il faudrait édicter une déontologie ou bien essayer d'en esquisser une pour ce genre de pub ?
Bon, s'agissant de ce genre de publicité-là, moi je trouve qu'il y a quand même justement un bon côté à tout ça, c'est que on voit une orientation des publicités de plus en plus à vouloir réellement intéresser les consommateurs et à en fait justement au lieu de vouloir pousser à l'achat, vendre un message et le répéter, etc. On essaye d'aller chercher plus loin, d'intéresser, de développer des sujets aussi qui font réfléchir les consommateurs et donc du coup de servir beaucoup plus les consommateurs. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté peut-être plus négatif et en tout cas critiquable, c'est justement le manque de perception du consommateur que ce genre de publicité provient des marques ou des entreprises. Là-dessus, c'est vrai que il serait préférable, en fin de compte, que peut-être ce soit plus évident pour le consommateur de savoir que ce genre de contenu provient réellement d'une marque, a été développé par une marque, et donc, vu que c'est développé par une marque, est certainement orienté. Parce qu'obligatoirement, il y a une orientation derrière. Donc
en Suisse, il existe un code of conduct pour ce genre de publicité qui a été signé par tous les rédacteurs en chef, presque tous, et puis qui se sont mis d'accord qu'il faut toujours signaler quand c'est de la publicité. Mais alors, la typographie est souvent 5 points ou 6 points, et puis on peut aussi faire de la typographie en gris au lieu de mettre noir, mais c'est toujours signalé. Et puis, il y a des titres qui se sont donné la règle de toujours changer le layout et changer de typographie. Mais ça se fait de moins en moins. Il y a vraiment beaucoup aussi de product placement, etc., qui n'est pas déclaré. Mais là, il y a un problème de crédibilité des médias. Vous croyez que les consommateurs s'en fichent. Donc, ils disent, oh, c'est bien, c'est intéressant. Et puis après, ils se rendent compte, oui, c'est payé. Ils s'en fichent que ce soit payé.
Mais quelque part aussi, il faut se demander la question. Je veux dire, c'est des contenus, ils ne se créent pas tout seuls. Hein, parce qu'il y a aussi la question sur les blogueurs, comme il y a sur des journalistes. Hein, c'est toujours, est-ce que oui ou non, il faut payer ou non un blogueur ou pour qu'il parle de ça ou ça. Je veux dire, quelque part, c'est aussi un petit peu... C'est normal, en fait, que la production des contenus, à quelque part, a un prix.
Oui, attention. Le journaliste, il a son salaire, c'est le seul prix.
Qui est payé par le média, oui. Ouais. Et qui est financé, en fait, en grande partie par la publicité.
Par la publicité, mais par une publicité qui est sur une autre page, et puis clairement déclarée comme publicité. Bien sûr, il y a eu, dans l'histoire, il y a eu des pressions de la part de publicitaires. Si VV faisait une annonce, il disait vous pouvez dans votre contenu rédactionnel parler de la nouvelle VV en bien parce que le rédactionnel est plus crédible. Ça, je l'ai connu comme j'ai déjà un certain âge, dans les années 70. C'était très fort. Mais aujourd'hui, ce genre de pression, contrairement à ce qu'on croit et ce qu'on dit, n'existe plus. Aujourd'hui, les agences de publicité sont très, très transparentes. Et je pense que même les agences de publicité ont un intérêt à ce que l'environnement soit crédible et que leur pub soit crédible comme pub, non ? Cette zone grise qui se crée maintenant un peu aussi dans les médias sociaux, elle est néfaste pour les deux, pour l'environnement rédactionnel comme pour la pub. Vous voulez pas que votre pub qu'on doute de l'honnêteté de votre pub, non ?
Oui, vous voulez dire en fait que les publicitaires et les annonceurs veulent s'attirer la confiance
aussi, c'est que le message soit clair. Je veux vendre une Volvo et je ne veux pas te parler de sécurité tout en insinuant que peut-être il y a des voitures qui sont plus sûres que d'autres et puis c'est à la fin de l'article une Volvo.
Non, je pense pas. Et puis, je pense que dans le marketing en général, les annonceurs ne cherchent pas à imposer à tout prix comme message, je veux vendre. C'est, lorsqu'on vous fait du sponsoring, c'est la même chose. Vous mettez votre logo, une présence discrète pour vous associer à un événement parce que vous partagez les mêmes valeurs, mais vous ne voulez pas dire « je vends tel produit, venez l'acheter ».
Non, si. Le sponsor, il ne sponsorise pas un événement parce qu'il partage les mêmes valeurs. Il veut vendre.
C'est la même chose avec le mécénat. C'est finalement, on investit, on soutient une association parce que on.
Ah non, le mécène, il ne met pas sa marque. Il ne met pas sa marque. Si vous mettez Hyundai dans un stade, vous voulez vendre des Hyundai. Ce n'est pas parce que vous êtes fan de foot.
Oui, mais là aussi, vous mettez un contexte qui est opportun à votre message. Vous ne mettez pas ça au lieu d'un sommet.
Mais le message, c'est je veux vendre des Hyundai.
Non, vendre ultérieurement oui, parce que ça sera naïf de penser qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours non plus. Hein. On est tous acheteurs, utilisateurs, etc. Il y a des commerces qui doivent vivre, etc. Et puis il y a des niveaux de degré de confiance, d'affinité, etc., de beauté ou quoi que ce soit, ou aussi de volonté hein, à, en termes de consumérisme, etc., différents. Donc à chaque produit, son audience, mais plus encore que c'est l'audience en fait qui dit « moi je préfère faire ceci, cela, peut-être ils ne veulent pas voir ça ou ça, vous voyez, donc c'est aussi une pression en fait qui s'inverse, c'est pas qu'une marque qui veut pénétrer quelque part et absolument matraquer son truc, et puis ultérieurement il y en a tout plein de gens qui achètent ça, mais c'est aussi de se profiler en tant que être sympathique, être à l'écoute, être là, montrer la voiture par exemple ou la marque sous des aspects différents, à des publics différents, de faire vivre une expérience, de toucher, de laisser les femmes conduire, laisser les hommes conduire, laisser, vous voyez, c'est un petit peu peindre hein, une image 360 degrés en fait qui permet à des gens différents en fait, d'y se projeter dans la marque ou pas.
C'est de l'assistance sociale, alors.
C'est non, mais, d'aider à non, comprendre,
mais,
bien
mais
sûr.
Mais soyons parce... clairs, la pub veut vendre. Hein mais pas, pourquoi, pas, pourquoi elle ne devrait pas vendre qu'est-ce qu'il y a de mauvais? On fait de la pub parce qu'on veut vendre, on veut faire du chiffre d'affaires. Après, il y a des chemins détournés, et puis on veut être sympathique, naturellement, on veut être sympathique, mais on veut vendre. C'est bien de vendre.
Oui, l'objectif final peut-être, mais l'objectif direct de toute publicité n'est pas obligatoirement de vendre. Ça peut être aussi justement de développer son image, de faire connaître ses valeurs, de pas obligatoirement pour vendre directement. C'est beaucoup plus à long terme que ça. Maintenant, c'est vraiment une construction. Les consommateurs veulent avoir affaire à des entreprises responsables. Maintenant, on parle de plus en plus de responsabilité des entreprises. On veut qu'elles s'impliquent dans le domaine social, qu'elles investissent pour des causes, etc. C'est pas pour vendre directement. C'est plus parce que justement, les consommateurs veulent avoir cette image d'entreprise responsable. Et proche en plus des consommateurs également. Et donc l'objectif direct de toute communication n'est pas obligatoirement de vendre, mais c'est beaucoup plus global que ça.
C'est comme les couleurs d'une voiture. Maintenant, on va les couleurs qui marchent. Et puis aujourd'hui, une des demandes, c'est l'écologie. Alors quand vous avez un produit, par exemple, nous, les journaux, on dit à notre lecteur, nous imprimons que sur du papier écologique. Mais pas dans le but de satisfaire son souci pour l'environnement, mais dans le but de vendre des journaux. Je vends des journaux. C'est
mais
pour
vous
ça que
pensez
je dis je suis
réellement?
Écologique, et puis je suis un bon patron, et puis je suis sympa, et je ne mets plus de cravate, etc. C'est pour que les gens vendent mon produit. Pourquoi vous avez cette réticence? La pub, c'est surtout pour... quand je vois les patrons des entreprises... La seule chose qui compte à la fin de la journée, c'est le nombre de produits qu'ils ont vendus.
Alors, mais si la publicité est pour promouvoir quelque chose qui n'est pas un produit, mais un pays, par exemple la Suisse, vous pensez qu'elle ne mérite pas la publicité?
Non, mais simplement pour rebondir, votre question n'était pas est-ce que l'objectif de la publicité est de vendre. Votre question était est-ce que le publicitaire n'a pas intérêt à annoncer clairement je veux vendre.
Voilà.
C'est différent. Donc je pense que non, le publicitaire, bien sûr qu'au final, on a des directeurs financiers, etc., des gens qui sont là, qui regardent les chiffres et qui ont besoin d'avoir un retour sur investissement. Et ça, peu importe le média que vous utilisez, on vous demandera de toute manière à un moment des comptes. Mais simplement, je pense que... il faut pas l'annoncer comme tel au consommateur, sinon vous allez droit dans le mur. Les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Et c'est pas pour rien qu'on se détourne de la publicité, parce qu'elle vous dit venez acheter ma lessive qui est.
Mais vous regardez un peu les journaux. Aujourd'hui, en période de crise, un peu, toutes les annonces parlent surtout du prix. Et le prix, c'est quoi? Achète moins cher. Mais je ne vois que ça.
C'est une infime partie de tout ce qu'on peut faire en marketing et en publicité.
Voilà, après, il y a naturellement la publicité de prestige, d'image. Une bouteille de parfum Chanel n'a pas besoin d'article, et puis pas besoin de prix. C'est de l'image, c'est du fétiche. Ça, c'est autre chose. Est-ce que les cigarettiers et les producteurs d'alcool, ils se sont un peu calmés? Ils sont éthiquement corrects aujourd'hui? Vous qui avez étudié ce problème. Ou est-ce qu'ils essayent par
c'est
des voies détournées
par les
parce que les médias sociaux se prêtent quand même à un peu tricher sur ce plan-là.
Oui, bah c'est sûr que de toute façon, les alcooliers ou les cigarettiers, quand plus la loi se développe et en fin de compte empêche certaines actions, plus ils vont développer leur imagination pour en créer d'autres. Donc obligatoirement, dès qu'il y a des portes de sortie ou des facilités à communiquer par d'autres types de médiums, ils vont les utiliser, c'est certain.
Vous avez vu des cigarettes apparaître ou sous une autre forme, sous forme d'articles ou de tweets dans le Twitter et dans Facebook? Ils sont dedans? Vous les avez vus apparaître?
En tout cas pas, on ne peut pas. Hein,
c'est non, interdit. C'est plus subtil que ça. C'est par le biais de création de soirées, d'organisation d'événements. C'est beaucoup plus subtil que de montrer. On montre très peu le produit et on se présente très peu souvent comme l'alcoolier ou le cigarettier. Mais on est présent.
À travers des événements. Subtil.
Oui, voilà, oui, l'organisation donc, d'événements est très répandue.
Voilà. S'il vous plaît. On va ouvrir la discussion parce qu'il y a plein de questions sûrement ou de propos. Qui veut saisir la parole? Il y a un micro aussi.
Ça. On peut juste commencer. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le sujet du débat. C'est-à-dire on avait donné deux exemples de campagne virale. J'aimerais bien avoir votre avis sur ces deux exemples. Il y avait le fameux hashtag FindSandra. Et puis, il y avait aussi ce phénomène d'usurpation d'identité très court, très contrôlé par Pathé lors du lancement d'un film où jouait Mathieu Kassovitz. Est-ce que vous pourriez juste avoir vos commentaires sur ces deux approches? Qu'est-ce que vous en pensez, le fait de balader les gens avec des scénarios très bien orchestrés, très...
Est-ce que tout le monde est au courant de quoi il s'agit?
Peut-être vous pouvez rappeler de quoi
oui. Il s'agit. Vous êtes au courant, non? Donc, c'est très simple. On a vu un article dans le Biller Tagblatt, par exemple, qui est très près de Courtlary, où se trouve Camille Bloch, qui disait « Oh, il y a un gars sympa, il a rencontré une fille, une blonde, au Paléo, et il l'a perdu de vue et il la cherche. » Donc, il a eu l'idée de mettre des chablons de faire un chablon Find Sandra avec un hashtag, et puis avec le spray, il a mis ce Find Sandra un peu partout, jusqu'à Zurich. Donc, dans toute la Suisse, vous avez trouvé ça dans la rue. Et puis, ils ont interviewé ce gars, et il a dit, ouais, cette fille, je j'aimerais la retrouver. Ça, c'est l'article qu'on a lu dans la presse. Quelques jours après, ou je ne sais plus combien de jours, 10 jours après, le même journal a dit « Ouais, on s'est fait avoir, finalement, c'est Camille Bloch qui lance un nouveau chocolat, une branche qui s'appelle Blonde, je ne sais plus. Il faudra... Torino Blonde. Moi, j'aime mieux le chocolat noir. C'est plus ça, et puis, ouais. Alors, ils ont dit, c'est ça, c'est pour Torino Blonde. Et le gars a été interviewé de nouveau par la télévision et par les journaux. Et puis il a dit, ouais, on a fait ça parce qu'on est une agence de publicité. Camille Bloch nous a demandé de faire ça. Et puis, ils ont fait un super spot où on le voit trouver Sandra, finalement. Et pour trouver Sandra, ils sautent par-dessus les maisons, et après, il y a un grand gap et donc, où ils devraient sauter. Ils pensent que c'est trop loin. Et puis après, il y a la branche qui se met par-dessus cet énorme toit. Il peut passer par-dessus la branche. Et je pense qu'il a embrassé Sandra. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de tromperie?
Alors, premièrement, moi j'étais pas, j'ai pas entendu de cette campagne. Ça marche le truc, oui?
Ah oui.
Alors, moi, en tant que, disons, que consommateur et averti et être aussi un petit peu dans le domaine, je me dis, mais tout ça à mettre en œuvre, si en fait ce qui compte est le chocolat, n'est-ce pas? Donc, je dis, pour moi, je ne prescris pas ce genre de démarche. Je ne crois pas en des stratégies de tromperie. Je pense que ça sert à personne, si ce n'est que de générer du mauvais buzz quelque part. Parce que qui veut se dire, moi j'étais en fait piégée par quelqu'un ou quelque chose qui en plus a pris mon attention, a pris sur mon temps, a pris sur mon implication,
me fait sentir stupide. Réaction est négative.
Et tout cet argent gaspillé, pourquoi? Pour avoir ce sentiment, je ne pense pas que ça marche longtemps.
Alors, on devrait connaître les chiffres de Camille Bloch quand même. Et on devrait savoir, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez
alors
que c'est
moi,
une tromperie?
Je suis allée regarder un petit peu les réactions justement des... en tout cas des consommateurs potentiels suite à la vidéo qui avait circulé sur YouTube et notamment après l'article qui est apparu disant que en fin de compte c'était pas un vrai Find Sandra et que c'était tout ça était monté et les réactions étaient très négatives. Extrêmement,
de la part des consommateurs,
extrêmement négative. On a été manipulé. C'est n'importe quoi de faire ce genre de publicité-là. C'est pas une bonne publicité, etc. Donc, je pense que à la fin, en fin de compte, le résultat a été plutôt négatif. Donc, ce qui montre bien que, en fin de compte, le décideur final, c'est quand même le consommateur. Et que, quand on voit que ce genre de communication ne fonctionne pas, il y a plutôt un effet négatif. C'est peut-être là qu'il faut revoir sa stratégie.
Donc vous dites aussi négatif.
Alors, dans ce cas précis, c'est particulier parce qu'en fait, on a joué avec les émotions, finalement, des consommateurs. On leur a fait croire à une jolie histoire d'amour et au final, ils ont été déçus. Donc c'est un cas particulier. Après, des stratégies de marketing viral qui reposent sur la rumeur, il y en a eu beaucoup et il y en a eu des très bonnes. Souvenez-vous, c'était fin des années 90, le Blair Witch Project, vous vous souvenez tous de ça. C'était ce film filmé caméra embarquée où qui avait soi-disant été retrouvé dans la forêt, les étudiants avaient disparu. Il y a toute une rumeur qui a été construite autour de ça. On a vraiment fait croire que ces étudiants avaient disparu. Il y a des affiches qui ont été placardées dans les universités recherchant ces étudiants. Il y avait un site internet avec des faux avis, des faux témoignages des parents éplorés. Donc il y avait vraiment toute une stratégie construite autour de ça. Et ce film a été un carton pour un budget comme ça. Donc, il y a des stratégies comme ça basées sur la rumeur qui marchent.
Mais il faisait de la pub pour quoi?
C'est pour le film. Pour lancer le film.
Pour faire pour lancer le film, ouais.
Ouais. Donc, ça dépend vraiment finalement de ce qu'on... De quelle façon, je pense, on implique le consommateur. Oui. J'ai travaillé dans une agence à Berne, je vous le disais tout à l'heure, et on faisait ce genre de campagne de communication. On a notamment fait une campagne en 2011 pour Cran Montana. Vous en souvenez peut-être, c'était une période assez difficile, le franc était fort, on avait besoin de booster un peu les réservations à Cran Montana pendant la basse saison, et en fait on a lancé une rumeur, on a fait croire qu'il y avait une pépite d'or qui avait été retrouvée à Cran Montana et qui était la plus grosse pépite jamais découverte dans les Alpes. Ça a été repris par de nombreux médias, par quasiment tous les médias. Donc beaucoup de retombées de presse, beaucoup de visibilité, et finalement on a rebondi là-dessus en lançant une offre en or, comme ça qu'on l'a appelé, avec une réduction incroyable pendant la basse saison, etc. Après, on a analysé finalement toutes ces retombées qu'on a eues et on était assez mitigés finalement par rapport aux résultats parce que certes, on a eu énormément de retombées dans les médias qui annonçaient cette pépite d'or à Cran Montana, mais en revanche, pour faire le lien après avec notre vrai message, cette offre a très avantageuse, finalement les médias n'ont pas apprécié cette fée Bernay et finalement très peu en ont... Ils se doivent, vous le savez mieux que moi, mais de corriger une mauvaise information. Donc, on a quand même eu des retombées après, mais finalement assez minimes par rapport à notre objectif de départ. Mais en analysant finalement le budget investi pour cette campagne et en calculant combien ça aurait coûté si on avait acheté des espaces publicitaires pour la même valeur, on a quasiment quadruplé le montant de départ. Donc finalement, le Grand Montana Tourisme était content parce qu'ils ont eu des bons résultats avec ça. Il y a eu des réservations derrière. Mais finalement, en termes d'image, alors le consommateur n'a pas été déçu parce qu'on ne lui a pas fait croire à une histoire très émotionnelle. Mais finalement, ce n'était pas forcément très positif non plus pour la station.
Et l'autre exemple, vous voulez dire ?
Non, mais ce qui montre que justement le marketing viral peut très très bien fonctionner, mais il faut que la proposition à la fin justement réponde vraiment à ce qui a été le message qui a été lancé au départ. C'est un peu le problème que l'on peut voir avec Torino Blonde, c'est qu'en fin de compte la proposition après qui est reliée à un chocolat ne correspond pas du tout en fin de compte à ce dont pouvaient attendre les consommateurs. Alors que dans le projet Blair Witch par exemple, là il y avait une réelle proposition après. Pour Carrie, ils ont fait exactement la même chose. Ils ont développé tout un système dans un café où ils ont fait croire qu'en fin de compte il y avait une fille qui était habitée et qui pouvait faire pas mal de choses avec ses mains, et après du coup la vidéo est devenue virale sur internet, mais parce qu'il y avait une vraie proposition après du film Carrie justement par rapport à ça. Donc ça montre bien à quel point il faut qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait une réelle proposition après.
Alors le film avec Mathieu Kassovitz, c'est un peu du même genre que ce Blair Witch. Donc Mathieu Kassovitz joue quelqu'un qui emprunte des identités, c'est-à-dire il va sur Facebook emprunter l'identité de quelqu'un qui est sur Facebook avec toutes les données, etc. Et puis après il vit la vie de cette personne. Et pour lancer le film, ils ont fait des doubles des comptes Facebook de journalistes. Donc le journaliste, tout d'un coup, il a reçu un message de lui-même. C'est-à-dire, le journaliste Max Meyer a reçu un message de Max Meyer l'invitant à aller sur son site. Et il va sur le site de Max Meyer, il voit que c'est une copie de son site. Tout d'un coup, il se rend compte, il y a quelqu'un qui a usurpé mon identité. Et là, les journalistes, ils ont assez mal réagi. Parce qu'on ne joue pas avec ça. On nous avertit continuellement que des gens installent des sites à votre nom et puis qu'on peut, après, on ne peut plus les désinstaller, etc. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet exemple-là ? On ne sait pas le succès du film. Il faudrait voir les entrées. Parce que le succès du film, c'est les entrées. Et puis, est-ce que ça a servi les entrées ?
Là, c'est aussi un cas particulier parce qu'on est dans une stratégie d'influence, c'est-à-dire qu'on va cibler des leaders d'opinion qui sont des critiques, des gens qui ont souvent des avis assez tranchés. Donc, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec ce genre de personnes. Et je pense qu'il y a eu, à mon avis, un mauvais ciblage, finalement. On a pensé qu'ils seraient surpris, je pense, de ça, qu'ils en parleraient ensuite positivement. Ça n'a pas été le cas, ils ont été dérangés par ça. Donc, je pense que la stratégie était mauvaise au départ, à cause de ça, et puis on va aussi contre finalement les règles de protection de la vie privée aussi. C'est quelque chose qui est interdit par Facebook, on n'a pas le droit de créer un faux profil, d'usurper une identité comme ça. Donc finalement on va à l'encontre de beaucoup de choses. Donc je pense que c'était pour moi une assez mauvaise stratégie.
Donc on a deux mauvais exemples. Est-ce qu'il y a de bons exemples ? Est-ce qu'il y a de bons exemples positifs ? Dites.
J'allais juste rajouter à ça, en fait, c'est vrai que la pratique, hein, la méthode, je ne la prescris pas. Mais les messages derrière, je pense, j'apprécie, parce que finalement, c'est aussi une sensibilisation. Ces prescripteurs critiques de films qui ont fait, au sujet de ce genre de démarche, ont aussi une responsabilité par rapport à leur audience, leur lectorat, à les sensibiliser à ce genre de choses. Donc là, en fait, la finalité n'est pas uniquement de vendre aussi des billets pour le film, mais aussi de sensibiliser un public large et les aider à gérer ce genre de crise, par exemple, parce que ce n'est pas parce que XY influenceur ne vit pas la chose sur sa propre personne que ça n'existe pas. Donc je pense que finalement, c'est la méthode OK, mais le message, je trouve par contre subtil et efficace.
Auprès de ce public, parce que comme vous disiez, les critiques de films, c'est des gens, il ne faut pas jouer avec eux. Hein. Je pense qu'ils auront un rejet totale de cette méthode. Enfin, c'est ce qu'on nous dit dans les articles. Alors, est-ce qu'il y a des bons exemples ? Donc, on nous met toujours en garde des mauvais exemples. Est-ce qu'il y a de bons exemples où on a créé un buzz, puis on ne savait pas très bien de quoi il s'agissait. À la fin, on voit, ah tiens, il veut nous vendre ça. Et puis que les gens ont été d'accord.
Il y en a un en Suisse, vous vous souvenez de Ali Kebab ?
Oui.
Voilà. Finalement, c'est un bon exemple. On a fait croire qu'il y avait ce Ali Kebab qui allait sortir partout en Suisse. Les gens se sont posés beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est ? Et au final, c'était une opération de la SGA pour montrer l'efficacité de l'affichage. Donc, c'est un bon exemple. Mais parce qu'on est sur un sujet qui est léger, finalement. Ouais. On n'est pas... C'est pas
grave. Ils ont fait semblant d'annoncer une chaîne de kebab.
Oui, en fait, il y avait ces affiches placardées avec partout dans toute la Suisse avec un type devant sa brochette de kebab. Et puis, c'était écrit Ali Kebab, New in Town, je crois que c'était ça.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis, tout le monde en a parlé, mais qu'est-ce que c'est voilà, ça.
Mais finalement, c'était de la pub pour rien parce que... C'est finalement comment on appelle, l'AGP ou...
Oui, c'était la SGA, mais ce qu'ils voulaient, c'était montrer que l'affichage est efficace lorsque c'est bien fait. Et puis ça...
Ouais.
Alors, vous imaginez le budget si un annonceur voudrait faire la même chose, mais en tout cas... Et puis, c'était dans les années 80, il y avait aussi une campagne comme ça, également en France, avec un réseau d'affichage. Je crois que c'est le premier cas de rumeur. En fait, il y avait cette nana en maillot de bain qui disait « le 24, j'enlève le haut ». Elle se retrouvait le 24 seins nus. Et puis après, c'était le 28, j'enlève le bas. Et puis elle était après, c'était en plusieurs phases comme ça pour montrer que c'était efficace et qu'on pouvait finalement capter.
Elle était de dos.
Était de dos.
Ouais. C'était très bien fait. C'était l'afficheur qui avait fait cette campagne. Oui, elle a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Mais aujourd'hui, il faut avoir des idées. Oui, tout le monde a des idées. Et puis, pour vraiment se démarquer, il faut des idées un peu folles. Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples positifs qui marchent ? Où on utilise justement les réseaux sociaux et puis qui vous ont frappé ? Parce que c'est... On le saurait. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne d'affichage de Orange qui annonce simplement « Orange s'appelle maintenant Salt ». Qu'est-ce que vous pensez de ça, puisqu'on parle de publicité ? C'est au moins c'est honnête, hein, c'est direct, c'est clair, c'est l'information. Et pourquoi ils n'ont pas fait plus que simplement cette phrase ? Pourquoi sans couleur ?
C'est la même phrase sur tout plein de supports. Hein. On le voit sur les trucs qui volent dans le ciel, on le voit partout. C'est vraiment pour ancrer ce nom. Donc le message est le même, mais elle est très courte et uniforme et pour que ça reste dans l'esprit.
Ah oui, tout le monde l'a vu.
Mais je pense aussi que d'une certaine manière, c'est pour sauvegarder l'image de Orange qui était attachée, en fin de compte, parce que les consommateurs, eux, ont justement leur abonnement Orange. Donc, histoire de ne pas changer, en tout cas, l'image qu'il y a derrière, c'est juste, là, on dit tout simplement, on n'est plus Orange, on est Salt. Voilà. Il n'y a aucune autre proposition derrière, pas tout prix, reste identique, il n'y a rien qui change, il y a juste Salt.
Ouais. Alors, oui, la couleur qui manque, oui. Salt, je ne sais pas si Salt aura une couleur à l'avenir, on verra. Alors, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions dans le public ? Là-bas, monsieur.
Quel regard portez-vous sur l'utilisation des réseaux sociaux par des partis politiques et des politiciens suisses ?
Ah, ça c'est intéressant.
Je peux peut-être juste dire deux mots là-dessus. Je pense qu'en Suisse, on est aujourd'hui très frileux par rapport à l'utilisation des médias sociaux par les personnalités politiques. Elles sont très peu à être actives aujourd'hui sur les médias sociaux parce qu'on a peur finalement de cette confrontation avec les individus qu'il peut y avoir. Et en effet, si on va sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut être prêt à engager le dialogue, à répondre aux critiques, parce qu'il va y en avoir. Un bon exemple, c'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy là, il y a quelques jours. Il a proposé aux gens sur Twitter de lui poser toutes les questions qu'il voulait en utilisant un hashtag. Et forcément, il y a eu plein de questions incendiaires, parfois insolites. Et puis, il a répondu à celles qui lui convenaient. Donc, je pense qu'il faut être prêt à se prendre en pleine figure, finalement, toute cette opinion publique. Et à y répondre, ça sert à rien aujourd'hui d'aller sur les réseaux sociaux si on n'est pas prêt à engager le dialogue. Et je pense que c'est assez, je pense, intelligent de ne pas y aller si on n'a pas les ressources derrière pour gérer ça. Donc je pense qu'ils sont assez justes dans le fait de prendre leur distance pour l'instant. Sûrement qu'ils sont en train d'analyser les pour et les contre, mais mieux vaut pas se lancer sur les réseaux sociaux la tête baissée, à mon avis.
On a fait une petite recherche à Berne, avec d'ailleurs les étudiants de l'AJM, pour savoir si les politiciens suisses utilisaient Twitter. Il y en a relativement peu. Et puis on constate aussi que c'est un peu un circuit fermé, c'est politiciens et journalistes qui communiquent sur Twitter. Et si un politicien fait un tweet intéressant, c'est rare, mais ils existent, les journalistes les reprennent et les impriment dans le journal. C'est un peu ça la technique aujourd'hui. En France, il y a beaucoup de politiciens qui tweetent continuellement, aussi des ministres. Ils ont peut-être plus de suiveurs aussi. On a vu le tweet d'Obama, qui on a installé son propre tweet. Il a dit, depuis combien de temps il est 6 ans en fonction. On a mis 6 ans pour m'installer enfin mon propre tweet. Il a promis de tweeter lui-même et il a eu un échange avec Clinton. Et puis, très drôle, et ça a été vu par des millions de gens dans le monde entier. Mais c'est parce que c'est Obama. Hein. Mais les politiciens suisses sont un peu réticents. Maintenant, pour les élections, je sais qu'il y a plein de candidats qui essayent maintenant de faire une campagne tweet et Facebook, qui veulent vraiment faire du buzz, faire de la communication, etc. Mais ça ne prend pas trop. Hein. Ça prend pas trop. Les partis, ils ont tous leurs sites, et puis les sites sont très peu visités que par les membres. C'est de l'information interne plutôt. Le mieux, c'est toujours d'aller d'une salle à l'autre et puis voir les gens. Voilà. Ce que vous feriez. Mais
c'est dans tout, en fait. C'est quelque part, c'est de reconnaître, en fait, on parle des médias sociaux comme c'est quelque chose de complètement abstrait, en fait, alors que c'est juste l'extension d'une personne. Il n'y a rien d'autre qui se passe sur des réseaux que des gens qui se connectent. Hein. Même des sociétés, même des marques, même des partis. Voilà. Derrière, il y a toujours des personnes. Et je pense que c'est un shift dans le paradigme, en fait, qu'il faut reconnaître et qu'il faut aussi s'imprégner de se dire je dois gérer ce qui me vient en retour, mais finalement, ça revient à la relation humaine en elle-même. C'est que je veux m'engager avec quelqu'un ou je ne veux pas. Peu importe sur quel terrain ça se joue ou sur quel format, c'est que je ne veux pas qu'uniquement pousser et montrer qui je suis, mais je veux aussi t'entendre toi et puis que tu me dises ce que tu veux. Après qu'il y a un échange qui se fasse, des émotions qui s'engagent, que je me crée mon audience en fonction de ce que j'ai à dire, mais aussi un terrain, en fait, un média autour de moi qui me permet de, en fait, rendre visible ces discours. Moi, je pense que c'est comme... C'est la nature humaine aussi de vouloir partager, en fait, qui est juste amplifiée. Et quand, en fait, là-dedans, les publicitaires, les marques, les initiatives, les pays même, etc., s'intègrent et qui veulent pénétrer ces territoires, moi, je trouve tout à fait légitime parce que c'est la vie.
Est-ce que les jeunes sont encore sur Facebook ou est-ce qu'ils ont déjà déserté Facebook parce qu'ils se sont rendus compte que les grands-pères et les grands-mères s'occupent aussi de Facebook?
Ah, c'est vrai qu'on parle un peu de ça en ce moment, que justement ils désertent de plus en plus parce qu'ils ne veulent pas que leurs parents aient accès à leur compte ou de toute façon être sur le même réseau que leurs parents, parce que de plus en plus de parents maintenant sont sur Facebook. Mais ils sont encore sur Facebook quand même. Mais c'est vrai qu'ils vont aller de plus en plus vers d'autres... Donc ils sont de plus en plus sur Twitter, les adolescents, et ils sont aussi de plus en plus sur Instagram. Instagram,
ça reste très... Sur les réseaux photos.
Les réseaux photos. Comme Snapchat et
Snapchat qui est en train de se développer.
Où ça se passe comme ça. Et je pense que les gens, en fait, s'intéressent de moins en moins à écouter ce qu'une marque ou une publicité a à dire. Ils s'intéressent beaucoup plus à ce qu'eux, ils peuvent dire sur eux-mêmes, dans les médias qu'ils préfèrent, avec une marque.
Oui, mais il y a quand même le vieux fonctionnement de la pub. Si je conduis une Volvo neuve, et s'il n'y a pas de pub pour les Volvo, j'ai l'impression d'être dans la fausse voiture. Parce que c'est ce que les importateurs de voitures me disent. On fait de la pub pour vendre des voitures, mais on fait aussi la pub pour confirmer le choix du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, il a besoin d'être confirmé par la pub. Donc, vous devez, si vous avez un bon produit, vous devez non seulement le faire connaître, mais après, vous devez confirmer. Cette boisson que tu bois, c'est la boisson qu'il faut boire. Donc, Coke, ils font la pub, surtout pour qu'on continue de boire de la Coca.
Oui.
Et c'est la même chose pour les produits de beauté. Si Chanel ne fait plus de pub, eh ben cette petite bouteille, tout d'un coup, vous la trouvez à la brocante. Donc, je veux dire, la pub est absolument nécessaire pour confirmer la valeur de quelque chose que j'ai choisi. Donc, mon choix, il est influencé par la pub et il est confirmé par la pub. Tout ce qui est luxe, vous n'achèteriez jamais une montre à 50 000 balles s'il n'y avait pas une super pub avec des superstars qui vous vantent les qualités de cette montre. Non ? Donc la pub est vraiment joue un rôle extrêmement important d'influence. On veut être influencé par la pub.
Mais je pense que c'est juste. Et puis aujourd'hui, on achète un produit finalement pas seulement parce qu'il est utile, mais parce qu'il nous positionne identitairement. Voilà. Si j'utilise aujourd'hui que la marque Apple, par exemple, c'est parce que ça donne une image de moi et c'est aussi pour ça que j'achète ce produit. Avant, c'était pas le cas. Dans les années 60, on achetait un produit parce que c'était utile, un réfrigérateur, peu importe la marque que c'était. Aujourd'hui, c'est différent. C'est la société de consommation, ni plus ni moins.
Il y avait déjà plusieurs marques de réfrigérateurs dans les années 60.
Il y a des questions.
Les produits sont aussi différents parce qu'une fois une lave-linge durait 20 ans, 30 ans, et maintenant ça dure 5 ans. Donc voilà, ça change. C'est pas seulement la publicité qui change, mais c'est et notre le fait que nous achetons pour se positionner. C'est que voilà, on doit de plus en plus consommer et on est obligé de le faire et donc voilà. C'était seulement un remarque.
Il y avait encore des voix là. Oui, alors prenez le micro.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc j'avais une petite question. Vous avez dit que de moins en moins les gens étaient réceptifs à la télévision, à la publicité de la télévision. Et donc, je voulais savoir si, malgré le fait qu'il y ait de moins en moins de gens qui sont réceptifs à ça, ça reste quand même un des meilleurs moyens de publicité, ou si la publicité sur les réseaux sociaux sont en train de devenir même meilleure que la TV et puis marche mieux. Je ne sais pas si j'étais claire.
Alors, qui veut répondre ?
Alors, de mon point de vue, comme je disais, c'est complémentaire, en fait. Et les réseaux sociaux vont certainement venir, mais juste en complément. Parce que, en fin de compte, les médias de masse, ils servent vraiment à établir l'image. Les réseaux sociaux, ils servent à établir la relation que la marque a avec les consommateurs. Donc, c'est, en fin de compte, après avoir créé cette image, là, on peut établir la relation. Mais établir une relation sans connaître ce que propose la marque et ses valeurs et sa position, c'est très compliqué. Donc, pour moi, ils vont rester de toute façon complémentaires. Et donc, ça veut dire que les médias de masse ne vont pas disparaître pour autant. Mais les réseaux sociaux vont de plus en plus se développer parce qu'il y a justement de plus en plus besoin de développer cette relation avec le consommateur.
Oui, je pense aussi finalement plus on travaille de manière intégrée, donc pas uniquement évidemment une campagne télé, mais aussi une campagne réseaux sociaux, peut-être avec un format audiovisuel en fait, donc un peu un film par exemple qui peut être l'extension du spot TV, avec une campagne dans les médias, avec une campagne RP, avec une campagne de sampling, avec une campagne de word of mouth, etc. etc. Plus qu'on crée des touch points, hein, on s'appelle ça sensuel, voir, toucher, entendre, vivre, etc. sur tout le parcours, pas plus qu'en fait la loyauté ou le nom de la marque est vécu de manière multisensorielle et s'ancre dans la mémoire. Donc si je suis dans la gare et en plus je reçois un nouveau Coca Life, je le goûte, je dis ah ouais, effectivement, après je vois le pub à la télé, après je vois mon pote sur Facebook parler de ça, après il y a un vrai une vraie transparence, une vraie compréhension de la marque aussi qui se crée, et donc qui sait faire ça et jouer sur tous ces terrains et avec le même professionnalisme, ces marques-là vont forcément réussir, peut-être mieux que d'autres qui travaillent de manière fragmentée ou isolée sur certains médias.
Alors, il y a toujours des modes et puis des tendances. Ce qui est nouveau est très sexy et puis tout le monde veut faire ce qui est nouveau. Mais quand on regarde les statistiques, naturellement, c'est encore toujours la télévision où on investit le plus et le print. Et le print, tout le monde annonce la mort du print, mais il est en difficulté, il y a des restructurations. Mais par exemple, tout ce qui est luxe n'ira jamais sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, l'environnement n'est pas sérieux. C'est n'importe quoi. C'est comme un supermarché. Si vous avez quelque chose à vendre dans un supermarché, vous allez dans un supermarché. Mais tout ce qui est luxe va seulement dans des magazines ou des journaux qui eux-mêmes sont positionnés, haute, grande qualité. Donc NZZ, Economist, Financial Times, les grands magazines. Quand vous regardez où annoncent Rolex, Omega, Hublot, ils sont que dans ces magazines-là.
On aimerait intervenir.
Oui. Juste, Hublot vient pendant la foire de Bâle, ils ont lancé leur compte sur Snapchat. Donc les marques de luxe sont actives sur les réseaux sociaux, quasiment toutes.
Oui. Très, et au contraire, fort investissement dans les influenceurs, de blogueurs, ouais. Des stratégies, par exemple Porsche. Quel est l'avantage de mettre une annonce dans un journal qui est lu 30 000 fois par je ne sais qui, ou alors mettre 5 blogueurs sur les sommets à 5 étoiles dans des hôtels, conduire la voiture avec la Rolex, le product placement, le champagne, etc., etc. Les résultats sont 5 fois plus élevés, et puis c'est lié à une personne. Donc une stratégie d'influenceur est sur les réseaux, sur les blogs et au territoire des gens qui ont une crédibilité et qui sont suivis par des milliers de personnes, est quelque chose qui est reconnu par beaucoup de marques de luxe et qui shift le budget, justement.
Oui. Alors ça, c'est le débat intéressant qui a aussi lieu dans les maisons de presse. Les gens qui s'occupent du digital, ils viennent avec les clics, et puis ils parlent de clics, de millions de clics, mais pour lesquels les annonceurs, les marques investissent très, très peu. Ils investissent très, très peu dans le digital. Ils investissent le gros dans le print, parce que dans le print, ils ont plus de retours et de gains d'image. Mais c'est une petite guéguerre maintenant qu'il y a aussi dans les agences de pub. On convainc naturellement chaque marque d'être sur les réseaux sociaux.
Ces différences de prix, elles viennent aussi des tarifs qui sont fixés par les médias. Hein. Vous achetez 10 secondes en télé, ça va vous coûter. Est-ce que vous pourriez faire sur Facebook Enfin voilà, je veux dire, les prix ne sont pas les mêmes non plus. Et ça explique aussi ces différences de budget quand on regarde simplement les prix qui sont investis. Mais c'est vrai que si on voulait vraiment... En fait, c'est simplement meilleur marché actuellement, les réseaux sociaux. Si j'ai envie de toucher autant de personnes sur Facebook, ça va vraiment me coûter moins cher qu'en télé, tout simplement.
Ça a une raison pourquoi c'est moins cher. Ce qui est moins cher vaut moins.
Bonsoir, j'ai une question à Madame Chour, en particulier. J'ai lu une statistique récemment qui disait que... alors, la statistique est ancienne, mais je l'ai lue récemment. Il disait que finalement, que 7% des conversations de bouche à oreille à propos de produits et services se passent online. Et finalement, la grosse majorité se passe offline, ce qui est assez logique, parce que finalement, même si on vit à quelque part dans un monde virtuel, on parle toujours beaucoup plus que ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. Et je me demandais, par rapport à votre modèle, est-ce que vous remarquez le même genre de phénomène, à savoir que les recommandations de des personnes qui travaillent avec vous se passent beaucoup plus offline qu'online? Parce qu'on a une bouche à oreille avec réseaux sociaux, mais ce n'est pas nécessairement comme ça que ça se passe.
Ça me fait très plaisir d'ailleurs, merci de mettre ça sur la table. C'est en effet vrai. Les stratégies de bouche à oreille, en fait, se passent différemment. Parce que là, on ne cherche pas à faire un buzz, ni de vendre vite fait, bien fait, pour une promo ou quoi. C'est de créer un lien avec une marque sur le long terme. Donc, créer une vraie relation. Et ce que des gens ne voient souvent pas, c'est que pour voir quelque chose d'incroyable dans le web, quelque chose dans le terrain doit se passer. Donc, pour pousser une personne à dire quoi que ce soit, à se livrer, à lier son image, à prescrire, à liker, et plus que le consommateur est averti, bien sûr. Hein, aujourd'hui, on a encore beaucoup plus de réticence à cliquer ou liker quelque chose qui se passe, parce qu'on a compris qu'on est observé, on a compris qu'on est calculé, qu'on a compris que sur un post Facebook, l'agence derrière calcule le nombre de likes qu'on a, des comments qu'on laisse, etc. Et tout est mesuré, tout est là. Donc, ça, c'est juste un phénomène, c'est le tip of the iceberg. Et le word of mouth, en fait, est quelque chose qui se passe en ligne, c'est quelque chose qu'on puisse espérer, qu'on peut mériter, mais qu'on ne peut pas faire.
Voilà. Mais les likes, vous pouvez les acheter. Il y a des agences.
Ceux
il y a des agences.
Bien, fond, hein.
Il y a des agences en Inde, au Pakistan, qu'en moyennant quelques milliers de francs, ils mettent des milliers de likes sur le produit que vous voulez.
Mais ce qui m'intéresse dans le propos, monsieur, c'est en fait c'est le média social, ce n'est que ce qui a toujours existé. Les gens parlent, et aujourd'hui, on a l'avantage de pouvoir le voir, en fait, sur un terrain qui se passe devant nos yeux. Mais en fait, ce genre de pratique, en fait, ça a existé depuis toujours. La publicité, en fait, se faire connaître, accélérer, amplifier, etc. Mais par exemple, un bon produit, restera un bon produit. Quand on est jeune et on va au boucher, et le boucher, enfin, quand on est petit, notre maman, elle achète la viande, et le boucher nous donne juste un tout petit peu pour le petit. On commence à sentir, on commence à créer ce lien, on commence à dire, je suis valorisée parce qu'à chaque fois que je viens, j'ai un petit cadeau ou j'ai quelque chose. Et ultérieurement, quand il y a une fête de famille ou quand j'ai 40 ans, c'est chez ce boucher-là que je vais commander l'apéro.
Il n'existe plus. Hein. Le boucher travaille chez Coop.
Ah, c'est la tendance justement qui s'inverse gentiment. Mais voyez ce que je veux dire. Ces choses-là se passent si on le voit ou si on les mesure ou non. On a la chance de mesurer, tant mieux.
D'autres interventions.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, en fait, je travaille chez Camille Bloch, donc je voulais. Ça tombe bien. Donc, je voulais revenir sur la campagne Find Sandra que j'ai pas mal supervisée. Juste pour vous dire que c'est clair, c'était un pari assez fou, surtout pour une entreprise qui est une entreprise très traditionnaliste et très classique dans son image. On a évidemment analysé les chiffres à la fin de la campagne et globalement, il y a eu évidemment des commentaires négatifs. Mais il y a eu une majorité de commentaires positifs, autant sur les réseaux sociaux que sur les médias. On a vraiment tout calculé, tout. Faible majorité, mais majorité quand même. Après, surtout, je pense qu'il est important de savoir c'est quel public on vise. Et nous, avec cette campagne, on voulait lancer un produit, donc du Blond, qui est un chocolat qui s'adresse aux jeunes. Et puis, on voulait viser les jeunes. Et ça a bien marché, dans le sens où on a gagné énormément de fans sur Instagram, qui est un réseau jeune, et énormément de jeunes fans sur Facebook, ce qu'on cherchait en fait, c'était vraiment notre but, et on a reçu beaucoup de commentaires positifs venant de jeunes, alors qu'on a reçu par exemple des emails qui étaient plus négatifs, où on voyait très bien dans la façon dont c'était écrit que c'était des personnes un peu plus âgées. Donc pour nous, de ce point de vue-là, le but était atteint. Comme ça a été dit aussi, c'est évidemment des campagnes à très faible budget, ça nous a presque rien coûté, donc finalement, par rapport à la masse de personnes qu'on a pu toucher, avec le nombre de médias qui ont repris l'histoire, c'était aussi un très bon point pour nous. Et chose assez marrante, on a reçu encore, il n'y a pas très longtemps, c'était le mois passé, des emails de personnes qui étaient très fâchées par cette campagne et qui nous ont dit, finalement, on est quand même allé tester le produit et il est très bon. Donc voilà, les gens ne sont pas restés sur une impression négative. Ça a duré un jour, le sentiment un peu négatif qui a été repris par les médias, donc qui a été évidemment amplifié. Mais globalement, nous, on en tire quand même un bilan positif. Et puis les ventes marchent bien, donc c'était plutôt une bonne campagne finalement.
Voilà. Alors, monsieur.
Et puis après, je vous donne la parole.
Merci. Le titre de la conférence, c'est La pub sans foi ni loi. Et en fait, je me demandais s'il y avait un contrôle d'une autorité par rapport à la pub. Et si oui, laquelle ?
Vous voulez répondre à ça, monsieur ?
Oui, je suis un peu dans le même sujet.
Ah, alors, on va prendre les deux questions ensemble. Ouais.
Oui. Non, j'éprouve, en vous écoutant et en entendant la discussion maintenant, quand même un certain malaise. Je pensais que dans un café scientifique, dans une université, on prendrait un peu de recul. Et surtout qu'il y a un professeur de marketing ici. C'est-à-dire qu'on regarderait le phénomène publicitaire et on ne se pencherait pas uniquement, en fait, sur savoir les petites techniques qui marchent et qu'on parlerait d'éthique. J'ai entendu l'intervention de monsieur de Camille Bloch ici. J'ai entendu votre intervention. J'ai entendu toutes vos interventions. Il m'est apparu à un moment donné, en fait, il semblait, ça marche, donc c'est bon. N'est-ce pas ? Est-ce que... au nom du résultat, en fait, on peut faire n'importe où, n'importe quoi. Où sont les limites ? Est-ce qu'on peut usurper des identités comme ce cinéaste ? On ira jusqu'à tuer ?
Non, mais je
vais jusqu'à l'extrême, n'est-ce pas ? Oui. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas contre la pub en soi, n'est-ce pas ? Mais je suis contre les manipulations des humains. Dans une phrase que vous avez dite, madame Chouche, hein, j'ai entendu ceci, moi, j'ai employé un autre mot. Hein, que celui de créer le lien, etc. J'ai entendu dépendance, comme il y a la dépendance à la drogue, à l'alcool, à la fumée, mon cas, etc. Hein ? Est-ce que on veut accepter en fait que la pub soit un élément qui crée des dépendances ? Hein ? Je crois qu'il faut aller jusqu'au mot dépendance.
Okay.
Hein, dans ces affaires-là. Excusez-moi, j'étais un peu
non,
long.
Non, mais vous avez
mais
raison.
Je pense qu'il faut un peu sortir du système en fait de temps à autre, non pas pour tout foutre en l'air, hein, mais pour savoir ce que l'on fait. Merci.
Alors, pour répondre à madame, aussi bien la presse que les publicitaires et la relation publique, ils se sont donnés eux-mêmes des règles, une déontologie, qui est par exemple pour la presse, il faut être dans la vérité. C'est le premier article. Et après, il y a des choses à ne pas faire. Il y a une dizaine de règles qui sont internationales et que la presse s'est donnée elle-même. Et la presse a même un organe de supervision. C'est le Conseil de la presse suisse, où vous pouvez, quand vous êtes concerné par un article, ou même en tant que simple lecteur, vous pouvez dire, là, les règles n'ont pas été respectées, qu'est-ce que vous en dites ? Et puis, c'est des commissions qui, après... statuent et disent, oui, là, le journal a violé les règles. Donc, c'est assez clair. Et puis, dans les relations publiques et la publicité, vous avez aussi ce genre d'autocontrôle.
Mais c'est une bonne remarque parce que, en effet, le consommateur, c'est stipulé, doit être capable d'identifier la publicité, clairement.
Voilà.
Dans le cas de Fine Sandra, ce n'est pas le cas. Dans le cas de Grand Montana, ce n'est pas le cas. Donc, clairement, ces règles ne sont pas respectées par les publicitaires.
Voilà. Et puis, il faut aussi... ce qu'on peut constater, c'est que ça a été bien pire dans le passé. Vous voyez, par exemple, les cigarettiers. Moi, je me suis toujours battu contre les cigarettiers parce qu'ils ont engagé des professeurs qu'ils ont payés très, très largement pour prouver qu'il n'y a aucun lien entre le cancer... et la cigarette. Et puis, ils ont répandu des articles très bien écrits par des gens très, très bien payés. Et puis, quand nous disions le contraire, en interviewant des experts, ils nous ont retiré les annonces. Mais ça, il y a 30 ans de ça. Aujourd'hui, même les cigarettiers sont extrêmement corrects. Ils sont extrêmement corrects. Ils sont extrêmement corrects sur la nocivité, sur l'interdiction de pub, etc. Et je dois dire qu'il y a toujours eu des agences de relations publiques qui ont essayé de nous fourguer du matériel et puis nous inviter à manger dans un bon restaurant. Et puis, si tu peux bien entrer ça dans une rubrique, etc., ça ne se fait plus. Ça ne se fait pratiquement plus parce que c'est bas de gamme. C'est bas de gamme. Ils viennent plutôt avec du matériel de qualité. Donc, il y a des bonnes relations publiques avec du matériel de qualité. Mais vous voyez maintenant, en politique, hein, le lobbying, c'est des relations publiques payées. Le lobbying est à l'ordre du jour. Et puis, naturellement, ça existe toujours, ça existera toujours. C'est raffiné. Vous avez fait du lobbying politique ? Non, ça ne passe pas par les agences de pub. Non, mais et puis le public, ce que nous constatons aussi, que c'est le consommateur et le public, il est très, très critique, et surtout les jeunes. Ils sont beaucoup plus critiques que quand on lisait simplement le journal de papa, et puis le journal de papa, il disait la vérité. Aujourd'hui, vous avez une telle variété de publications que vous pouvez quand même repérer quand il y a un faux ou quand on essaye de nous manipuler. On peut beaucoup moins manipuler les gens aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Oui, bah c'était un petit peu justement ce que je voulais rajouter, parce que l'éthique, c'est très important en publicité, et on en parle énormément maintenant, justement, pour éviter les abus qui ont été effectués dans les années, enfin, dans les années 60-70, avec tout ce qui est message subliminal, manipulation, etc. Ça ne se fait plus. Mais le meilleur contrôleur de tout ça, et en fin de compte, celui justement qui va faire en sorte que ça se passe le mieux, c'est le consommateur, parce qu'en fin de compte, il a tellement de droits de réponse. Non, non, non. Ah, c'est pas une. C'est... Non. Non, non. C'est pas. On demande pas au consommateur de le faire. C'est justement une démarche du consommateur lui-même, parce qu'en fait, il a des possibilités de réagir, ce qu'il n'avait pas avant. En fait, on lui donne des possibilités de réagir. Peut-être qu'il faut amplifier, en fin de compte, justement, ces possibilités de réagir de la part des consommateurs. Peut-être que, justement, les réglementations devraient peut-être aller de ce côté-là, c'est-à-dire donner encore plus de possibilités aux consommateurs pour réagir face à des choses, en tout cas, qu'ils jugeraient néfastes, qui sont faites par les entreprises ou les marques.
Les associations consommateurs. Mais oui. Non, pas subventionner.
Pas subventionner. Offrir des voies de recours, en fait, et des voies d'expression encore plus importantes. Là, on ne parle pas de choses monétaires, on parle de possibilités, de voies d'expression offertes.
Et vous avez des émissions comme À bon entendeur, qui ne subissent aucune censure, aucune pression, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Pour informer le consommateur, ils font des tests de comparaison assez durs. Hein. Et vous avez des magazines de consommateurs. Vous avez dans chaque domaine, vous avez des magazines qui sont quand même assez critiques. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a affaire, et puis ça, les producteurs de marques le savent, ils font la moindre erreur. Et puis les réglementations, les lois sont très, très sévères. Quelle est la marque de voiture qui a dû retirer maintenant? Ils ont dû retirer des millions de voitures parce qu'il y avait un défaut possible dans le airbag. Mais ça, c'est pas. J'ai pas connu ça quand j'étais jeune. Et maintenant, à cause des lois et des réglementations sur la consommation, sur la sécurité des produits, on exagère presque. Hein, parce que moi, je crois que vous ne pouvez même plus acheter des échelles. Sans signer une assurance. Et puis, je crois que sur chaque échelle, il est écrit que si vous montez là-dessus, vous pouvez aussi descendre. Ou tomber. Oui, il y a d'autres... Non, je ne veux pas monopoliser. Vous vouliez dire quelque chose?
Non, juste justement, pour se rendre compte un petit peu de l'impact que tout ça peut avoir, il y a eu quand même justement cette vidéo sur YouTube qui est apparue pour United Airlines suite, en fin de compte, à un jeune chanteur qui avait eu sa guitare brisée par United Airlines pendant un vol, parce que le contrôle des bagages avait mal été effectué, etc. Et vu qu'il n'a pas eu de réponse à ses réclamations, il a décidé de faire une chanson diffusée sur YouTube qui a eu un impact tel que le cours de bourse de United Airlines a baissé, je crois, de presque 10% en une journée. Parce qu'en fin de compte, ça avait été repris tellement et ça avait eu un impact tel que ça avait impacté jusqu'au cours de bourse de United Airlines. Donc il y a quand même justement le poids de ces voix est important. C'est pas anodin.
D'autres interventions là-bas ?
Oui, ma question s'adresse à Madame Benny, excusez. Vous faites du travail au nom de la Suisse. Et comment triez-vous l'information? Où se trouvent vos limites entre l'information et la pub?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, les marques sont de plus en plus en train de développer ce qu'on appelle, c'est un anglicisme, mais le brand content, c'est-à-dire que les marques aujourd'hui développent du contenu. Et pour aujourd'hui être intéressante et retenir finalement l'attention des individus, il faut apporter un contenu qui les captive. Donc nous, on est plutôt dans cette stratégie-là, c'est-à-dire qu'on va créer du contenu qui va intéresser finalement les gens et du contenu qui met en avant la Suisse d'une la Suisse sous un certain angle. C'est pas de la propagande, mais disons qu'on sélectionne l'information qu'on a envie de diffuser. C'est finalement, oui, c'est de la publicité. On travaille sur de l'image, donc on est dans le marketing, si on veut. Mais ça, on le fait autant par le biais, je dirais, des nouveaux médias que par le biais de la communication traditionnelle. C'est le cas, par exemple, à Milan. On se présente d'une certaine façon. On montre la Suisse qu'on a envie de montrer. Donc on est dans de la communication, ni plus ni moins.
D'autres questions ? Ou est-ce que vous avez tous envie de prendre l'apéro ? Sinon, je vous laisse le mot de la fin, puisque vous êtes déjà debout. Et j'espère qu'on a pris assez de hauteur, quand même. Et un peu de recul. Hein ?
Donc merci à Michel Rousson, qui était au premier rang ancien recteur de l'université, d'avoir bien voulu nous inviter à prendre de la hauteur. De la hauteur, on en prendra encore, puisqu'on va survoler l'été sans café scientifique. Donc je vous souhaite d'ores et déjà une belle saison estivale. Et je vous donne rendez-vous le 9 septembre, ici même. Et le sujet sera en rapport avec l'Uninews que vous pouvez trouver sur les tables. Il y a quelques exemplaires qui sont disséminés là, que je vous invite à prendre, sur les 50 ans de notre centre d'hydrogéologie. Et à cette occasion, on va parler des micropolluants dans l'eau. Donc je vous invite tous à venir le 9 septembre, après l'été. Et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Et je remercie encore une fois nos intervenants et leur participation à ce café scientifique. Merci beaucoup, au revoir. Merci.